L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, on dessine, on philosophe et on rigole, les trois mamelles de notre invité. J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop de le caricaturer ainsi, car la caricature dessinée est l'un de ses arts. Il a par ailleurs fait de la radio chez nos copains de Radio U. Il est animateur à 16h, de conférences aussi. Il est également docteur en philosophie, ce qui fait que Platon, Hergé, Camus, Gottlieb sont quelques-uns de ses référents en vrac et tout mélangé. Mais il y a sans doute un lien, et ce lien, c'est lui. C'est Benoît Quinquis, alias Bleuquin, c'est son nom d'artiste. Bonjour Bleuquin.
Bonjour Véronique.
Alors aujourd'hui, vous avez une actualité, puisque votre deuxième ouvrage de caricature vient de sortir. Alors le premier, c'était Vivement la mort, qu'on se repose un peu. Et cette fois, c'est Il y a trop de monde sur Terre, aux éditions Yil.
Il y a trop de monde sur la Terre.
Sur la Terre, pardon. Oui, c'est vrai que j'ai mangé le « la », et c'est important.
Ben, disons que c'est important dans la mesure où, voyez-vous, de même que Vivement la mort, qu'on se repose un peu, il y a trop de monde sur la Terre, c'est une formule qui me vient souvent quand je peux être aidé par les péripéties de la vie ou la bêtise de nos semblables, et même dans des contextes très, très anodins. Quand on est dans un bus qui est bondé et qu'il y a des gens qui parlent très fort dans leur téléphone portable, on peut être amené à ce genre de choses. Et donc, je prends volontiers des titres comme ça, simplement parce que mes dessins sont justement des choses qui me viennent sous les coups d'une humeur. Souvent, c'est des jaillissements spontanés. C'est des idées qui viennent tout de suite ou ne viennent jamais.
Ouais, parce qu'on pourrait dire, en fait, on parle de gens qui sont graphomanes quand ils écrivent tout le temps, mais en fait, vous l'êtes pour le dessin, c'est ça?
Entre nous, j'aimerais l'être, parce que je sais que Camus, qui est un de mes modèles, dessinait sans relâche, sans arrêt. Il arrivait même à dessiner dans les salles obscures de cinéma, il arrivait même à le faire sous son par-dessus pour ne pas à se faire prendre. J'aimerais avoir la même production. Malheureusement, je suis quelqu'un d'assez hypersensible et il peut y avoir des zones, des périodes de désert. Mais en dehors de ces périodes de désert, je peux être très productif. Oui.
Ça dure combien de temps, une période de désert ?
Oh, ça dépend. Hein. Ça dépend de certaines circonstances. Ça peut aller de 2 semaines à 1 mois entier.
Ah oui, c'est quand même assez long. Sinon, on a quand même l'impression, quand on regarde justement votre livre, Il y a trop de monde sur la Terre, donc, on se rend compte que vous avez évidemment sélectionné les dessins, vous n'avez pas publié tout ce que vous dessinez, mais finalement, vous avez suivi l'actualité quasiment en permanence.
Quasiment, oui. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, il y a des sujets qui ne m'inspirent pas ou simplement qui ne m'intéressent pas. C'est une réflexion que j'ai développée récemment. En fait, je me suis toujours défendu d'avoir la moindre prétention de changer la société avec mes petits crobards. Mais quoi qu'on aura beau dire, on a beau faire, on a toujours plus ou moins l'envie d'être utile à quelque chose. Et donc, par exemple, si je fais un dessin contre le racisme, je me suis dit, c'est pas ça qui va faire disparaître certaines idées pourries. Mais si au moins une personne, en voyant un tel dessin qui ridiculise certains préjugés, peut être amené à réfléchir, c'est déjà un succès. En revanche, finalement, j'ai très peu parlé de la pandémie actuelle pour une raison simple, c'est que je n'y peux rien. Donc, ça ne sert à rien que je me réponds là-dessus. Et à la limite, je me suis borné à aborder certains aspects sociaux de la chose.
J'en ai aussi parce qu'elle nous apprend des choses sur nous, quand même, cette pandémie.
Et j'en suis profité pour épingler certaines de mes têtes de turc au passage.
Donc, c'est qui vos têtes de turc?
Oh, j'en ai plusieurs. Déjà, Marine Le Pen, pour des raisons évidentes. Bernadette Malgorn aussi, la chef de l'opposition à Brest. J'ai pas repris ce dessin parce qu'il n'est pas très satisfaisant, mais j'avais fait un... C'est quand j'avais appris que des sangliers avaient fait leur apparition dans les villes de banlieue parisienne confinées, j'ai dit, à Brest, on en a aussi. Et donc, j'ai mis Madame Malgorn à une lait. Bon, je n'ai pas repris le dessin parce que graphiquement, il ne me satisfaisait pas. Mais mes têtes de turc, ça peut être aussi les petits gens, comme on dit, avec leur projet stupide. Là, j'en ai un sous les yeux. On voit un gros bof qui lit un journal sur lequel il est écrit « La pandémie recule en Europe » et il dit « Bientôt, elle sera là où elle doit être, chez les négros ».
Oui, c'est sûr. Ces gens-là existent, hein, faut bien le dire.
Ben oui.
Donc, on comprend que vos thématiques de prédilection, c'est tout ce qui est les idées d'extrême droite en général, c'est ça ?
Oui, enfin pas seulement. Donc, j'avoue que c'est la vocation, mais est venue petit en regardant les guignols de l'info avec mes parents. Donc, c'est vraiment ça qui m'a donné envie. Moi, encore aujourd'hui, ce que j'aime faire vraiment, c'est mettre des têtes au bout d'une pique de façon humoristique, épingler les travers des grands de ce monde qui le méritent bien quand même, parce que j'ai beau savoir que ces dessins ont très peu de chances de survivre à la notoriété des personnalités qu'elles épinglent, je m'en fiche parce que ça m'amuse. Donc, alors je pourrais, comme certains, faire des dessins beaucoup plus transcendants et d'humour beaucoup plus noir. Je pourrais le faire, mais j'en ai pas envie parce que ça ne me plaît pas. Donc le dessin doit rester un plaisir.
Mais vous êtes quand même, on peut dire que votre caricature est quand même assez cruelle, malgré tout. Enfin, vous n'épargnez pas les gens.
Bah, c'est fait. Bah, je parlais effectivement des petites gens il y a un instant, mais c'est parce que, à la limite, ce serait leur manquer de respect que de ne pas leur dire à eux aussi qu'ils peuvent être cons. Hein, donc,
Oui, bien sûr. Il faut. Et alors, quels sont les autres sujets qui vous inspirent sinon ? Parce qu'il y en a beaucoup, hein, mais là, en fait, le livre se présente comme un dictionnaire. Enfin, c'est un par ordre alphabétique. Il y a énormément de thèmes, forcément. Lesquels, alors, sinon, ont paru les plus intéressants ces derniers temps, en tout cas ?
Déjà la défaite de Donald Trump. Donc, je ne peux pas dire que Trump était une... Beaucoup de gens disent que Trump, c'est du pain béni pour les caricaturistes. Je ne partage pas ce point de vue parce que, déjà, le personnage était flippant, même s'il était grotesque. Et d'autre part, parce qu'il était déjà une caricature en tant que telle. Donc, à la limite, c'était trop facile. Donc, c'est vrai que j'en ai fait lui aussi une tête de Turc parce que justement, comme la plupart des cons, il était dangereux. Donc, il fallait bien l'épingler. Et donc, sa défaite était un immense soulagement que j'ai salué comme il le méritait, même si Joe Biden n'est pas ma tasse de thé, mais bon, ce n'est pas un irresponsable, lui au moins. Donc, j'avoue que parce que je peux vous le dire, quand j'ai appris à fin octobre qu'on n'échapperait pas à un second confinement national, j'ai eu une grosse déprime, j'ai laissé en plan tout ce quoi je travaillais, mais c'est vraiment cette défaite de Trump qui m'a remis le pied à l'étrier. Donc, je peux aussi parler de littérature de temps en temps. Dans cet album, il y a un dessin sur Amélie Nothomb que j'aime beaucoup parce que quand j'avais appris qu'elle avait écrit un roman où elle se mettait dans la peau du Christ, j'ai pas résisté. Je la présenterai en train de porter une croix et il y a un légionnaire romain qui dit à son collègue « Hey Caius, tu laisses me faire une dédicace avant de la crucifier ?» Mais j'épingle aussi des écrivains que j'aime moins. Par exemple, Michel Houellebecq, parce que son roman Soumission, pour moi, je suis désolé, pour moi, c'est la propagande d'extrême droite, point barre. Donc, c'est pour ça que je me suis dessiné moi-même dans une librairie, en train d'écrire livre abject sur un exemplaire, et le libraire dit « Mais enfin, ce n'est que de la littérature !» Et je réponds « Et le juif sus, ce n'est que du cinéma, je suppose ?»
Il ouais, faut rappeler ce que c'est le juif sus, c'était un film.
Un film de propagande antisémite produit sous l'Allemagne nazie, un film particulièrement abject, oui. Donc.
Et alors, contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre « Il y a trop de monde sur la Terre », on pourrait se dire « Tiens, ça va parler pas mal d'écologie », finalement, pas tant que ça. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait se dire « L'espèce humaine est vraiment invasive », et puis non, ça c'est...
Oh, non, vraiment, j'ai choisi ce titre parce que c'est une phrase qui me venait souvent quand je pouvais être excédé dans les vies quotidiennes. J'aime bien des titres un peu provocateurs, un peu cyniques comme ça. Bon, ça ne m'empêche pas de parler d'écologie. Il y a un dessin, par exemple, où je légende « Le prince Harry est papa », et on voit un ours blanc sur son iceberg qui est réduit au minimum et qui dit « Il a la chance pour encore se reproduire ». Donc, cette thématique n'est pas absente, mais elle ne l'est pas plus que les autres. Donc.
Et d'autres sujets qui vous ont inspiré dans les années passées, remontons un peu aux années précédentes, éventuellement hein.
Les migrants, déjà, parce que vraiment, on n'arrête pas de se plaindre pour nous, de notre sort en Europe. Bon, pour des raisons qui sont plus ou moins légitimes, je ne dis pas à le contraire, mais quand on voit ces gens qui sont prêts à braver 1000 dangers pour arriver sur des terres qui sont... On les accueille quasiment comme des envahisseurs, moi, ça me choque énormément. C'est là qu'on voit qu'on est encore dans... Que finalement, mais quoi qu'on en dise, on est encore des pays antiques qui refusent le secours aux pauvres. Donc, et c'est pour ça que j'ai parodié l'affiche du film E.T., M.I.E., le mineur isolé étranger, sauf que sur le dessin, au lieu de tendre la main, on lui fait un doigt d'honneur.
Ouais, tout à fait. Puis c'est vrai qu'on pourrait quand même réfléchir, par exemple, quand on fuit les villes confinées, finalement, on est en train de fuir une réalité déplaisante et on est en train de se comporter en migrant quelque part.
D'autant plus que souvent, j'ai entendu parler de commentaires sur. On les pointe du doigt, on dit mais vous êtes irresponsables, vous allez nous transmettre le virus. Finalement, ils ont beau être français comme nous, on se comporte comme s'ils étaient des. On se comporte exactement comme s'ils étaient des étrangers. Donc, franchement, quand on voit ça, on se dit qu'il y a du boulot, quoi. Donc.
Et alors, quand vous parliez de vos traversées du désert, ça veut dire qu'il y avait des périodes qui ne vous inspiraient pas, enfin, c'est ça, ou c'était autre chose, quoi?
Ben, pour être franc, ce n'est pas un secret, je suis autiste Asperger et je suis aussi hypersensible. Il y a des choses qui peuvent m'arriver des choses qui peuvent effectivement me couper complètement les jambes, me faire dire que tout est vain, que ça ne vaut pas le coup de continuer à travailler, que ça ne vaut pas le coup de continuer à dessiner. Bon, si j'étais rémunéré et régulièrement pour mes dessins, je réagirais sans doute autrement. Mais là, en l'occurrence, si rien ne m'y oblige, si vraiment je sens une période d'abattement assez dure, j'ai un peu de mal à me forcer des fois. Donc.
Mais ces périodes d'abattement, ce n'est pas forcément lié à l'actualité. Ça peut être très personnel. Enfin, ce n'est pas forcément parce que vous réagissez à l'actualité.
Ça peut quand même être lié à ça, mais ça peut être lié à des choses personnelles. Rien qu'en juillet dernier, j'ai perdu mon oncle qui est mort dans la force de l'âge. Je ne sais plus quel âge il avait, 55 ans, je crois. Il a laissé une veuve et 4 orphelins. Ben, c'est assez dur à encaisser. Donc.
Et justement, à propos d'événements durs à encaisser, j'imagine que ça a dû vous atteindre particulièrement. L'attentat de Charlie Hebdo qui commence à remonter, hein, qui a quand même marqué un petit peu l'histoire de la caricature en France. Il y a eu aussi après d'autres, il y a toujours des événements autour de la caricature, est-ce qu'on peut tout caricaturer? Qu'est-ce que vous pensez? Déjà, comment vous avez réagi à l'attentat de Charlie Hebdo? Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Ben, dans un premier temps, j'ai pas voulu y croire. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ont pas pu en arriver. Et là, et puis après, peu à peu sont tombées les nouvelles. Elle, Cabu est mort, Honoré est mort, et je suis resté prostré pendant 48 heures. Donc, cela dit, bon, c'est pas tout à fait vrai, parce que on m'a annoncé après qu'il y avait un rassemblement qui était organisé sur la place de la Liberté. Et ben, c'est bien simple, y aller ou ne pas y aller, la question se posait même pas. Donc, c'était le soir même du 7 janvier, on s'est retrouvés réunis. Il y avait longtemps que j'ai pas vu autant de monde sur la place de la Liberté. Puis après, deux jours après, il y a eu des manifs de lycéens, j'y étais aussi, qui en plus ont eu la gentillesse de crier non aux amalgames, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas stigmatiser tous les musulmans de France, ce qui était alors à l'honneur de cette jeunesse. Et puis bien sûr, le 11 janvier, où là, c'était le grand moment. Et puis après, le premier dessin que j'ai fait là-dessus ne parlait pas trop des attentats en eux-mêmes, qui, j'avoue, me dépassaient dans un premier temps. Et j'ai préféré montrer tous les anciens de Charlie qui donc se retrouvaient presque tous, qui étaient au paradis, qui foutaient un peu la mer. Donc, une façon pour moi de plaider en faveur de la survivance de cet esprit frondeur. Et puis après, mais là où ce qui m'a fait un peu mal après, dans les deux mois qui ont suivi, c'est parce que je me suis rendu compte que les gens étaient affectés eux aussi, mais pas pour les mêmes raisons que moi. C'est-à-dire que beaucoup de gens finalement avaient réagi parce qu'ils y voyaient une menace sur les valeurs républicaines, ce qui était bien le cas, mais ils n'avaient pas le même. Parce que vraiment, c'était des signatures qui m'avaient marqué dans mon adolescence, et qui donc m'avaient donné envie de continuer à travailler. Et il n'y avait pas le même ressenti. Je me sentais que. Je me suis senti un peu seul. D'autant que certaines personnes ont dit. Étaient quasiment prêtes à me taper du cou en disant dis donc, tu vas pas en faire des caricatures sur celui-là. Mais vous comprenez pas que ça m'a coupé les jambes, ce truc-là. Donc
en fait, vous aviez l'impression que les gens ne regrettaient pas forcément la perte des personnes, enfin des artistes, mais c'était plus le simple fait qu'il y ait eu tant de violence contre des gens, somme toute inoffensifs, c'était ça, non?
Il y a un peu de ça, oui. D'autant qu'après, malheureusement, il y a eu le courant du « je ne suis pas des gens, je ne suis pas Charlie » ou « je suis Charlie May » qui disait que, grosso modo, que ces dessinateurs avaient provoqué. Mais ces gens-là, heureusement, c'est triste à dire, mais ils ont été bien jugés de la fermer après le 13 novembre 2015, parce que là, on a vu que les terroristes n'agressaient pas seulement ceux qui, entre guillemets, les provoquaient ouvertement, mais même tout simplement ceux qui ne s'accordaient pas avec leurs pensées subtiles, entre guillemets. Mmh.
Et les attentats de Charlie ont retrouvé un écho malheureux aussi après le meurtre de Samuel Paty. Donc, en fait, on se dit, c'est vraiment compliqué encore, la caricature en France. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, malheureusement, effectivement, il ne faut pas s'en cacher. Les espaces de liberté pour les caricaturistes se réduisent comme peau de chagrin sous les coups de boutoir de la censure économique, parce que les journaux sont de moins en moins gérés par des journalistes et de plus en plus par des hommes d'affaires dont le seul souci est de faire du fric. Et pour ce faire, ils doivent plaire à un maximum de personnes et donc servir une soupe de plus en plus tiède. Et d'autre part, il y a aussi la frilosité d'une certaine frange du public.
Pourtant, il y a aussi le développement développement de médias de niche, sur des nouveaux supports, c'est vrai. Plutôt Internet, sans doute.
Oui, mais ça, malheureusement, quand on publie sur Internet, le dessinateur n'est pas rémunéré. Et faire du dessin, c'est un vrai métier. Mmh. Il faut le savoir. Et puis, j'avoue que les écrans, cette époque hyper connectée, je sature. Donc,
Je comprends. Et un dessin, par exemple, vous prend combien de temps, en fait ? Vous disiez que c'était de l'humeur, donc que vous réagissiez quand même assez vite. Mais combien de temps ça vous prend de faire un dessin réussi ?
Ouf, oh là là, bonne question. Je crois même être jamais, quand même. Donc, si je compte en oubliant les éventuelles retouches, ça peut prendre trois quarts d'heure. Ça peut prendre trois quarts d'heure environ. Donc, mais il y a aussi des dessins qui sont plus élaborés, qui peuvent prendre plus de temps. Notamment si j'ajoute la couleur. Donc.
Et quand vous êtes en forme, vous pouvez dessiner combien de dessins, je sais pas, dans une journée
Si je suis en grande forme, ça peut aller jusqu'à une dizaine des fois. Donc, si je suis en méforme, si j'en fais un par jour, c'est déjà bien. Donc, si j'en suis à faire un par semaine, c'est que vraiment ça ne va plus du tout. Donc.
Et de toute façon, ce n'est pas votre seule activité. Vous écrivez aussi beaucoup. Enfin, vous avez un blog. Hein, vous écrivez. Enfin, c'est important pour vous de continuer aussi à passer par l'écriture, je suppose.
Ben, ce n'est pas incompatible, je pense.
Donc, non, au contraire.
D'une part. Puis il y a certaines choses qu'on peut exprimer par le dessin, mais et d'autres qu'on ne peut pas. Et où l'écrit, il y a certaines choses qui est plus facile de transmettre par l'écrit. Donc,
Qu'est-ce que vous préférez transmettre par l'écrit ?
Alors, la bonne question. Je ne sais pas. Il n'y a pas de règle. J'ai envie de dire de feeling. Je n'aime pas beaucoup le mot, mais c'est un peu ça. C'est certaines idées. Je sais que quand je n'ai pas d'idées graphiques satisfaisantes, je sais qu'il vaut mieux les écrire. Mais pour être franc, ce que je préfère transmettre par l'écrit, c'est des expériences personnelles. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui font de l'autofiction. Mais bon, je considère qu'il y en a trop, déjà. En plus, ce n'est même pas tellement nouveau. C'est déjà l'Ambi des Covins dans les années 70 avec leur série Pauvre l'Empile faisait de l'autofiction. Donc,
Mais oui. Il se dessinait, mais oui, si, c'est vrai, vous avez raison.
Donc, si la génération actuelle n'a rien inventé.
Non,
donc,
c'est vrai.
Et donc, pour me raconter, moi, je préfère passer par l'écrit.
Oui, tout à fait, on comprend. Et alors, quels sont vos inspirateurs en dessin, déjà ?
En matière de dessin satirique, je citerai notamment Cabu, dont j'ai déjà parlé, qui était vraiment virtuose, mais Rezer aussi. Rezer qui, pour moi, est un romantique, quoi qu'on en dise.
Parce je suis assez d'accord, oui.
Et aussi Ciné, qui a montré que même vieux et malade, on pouvait continuer à aller de l'avant. Donc, c'est un exemple pour tout le monde. Dans un autre domaine, Franquin, bien sûr, parce que c'est un dessinateur qui n'admirait pas Franquin, c'est comme un musicien qui n'admirait pas Mozart, ça n'aurait pas de sens. Et aussi, on n'en parle pas beaucoup, un peu moins, Turk, le dessinateur de Léonard, parce que c'est un virtuose aussi, qui a toujours dessiné avec une grande clarté, avec un sens comique certain, c'est une chose vraiment étonnante. Donc,
Vous avez grandi plutôt avec la BD belge ou avec plutôt Fluide Glacial, avec quels étaient les magazines que vous lisiez étant jeune et maintenant encore hein.
Quand j'étais jeune, je ne lisais pas. Quand j'étais petit, je ne lisais. On n'avait pas vraiment de magazines à la maison. Mais mes parents avaient une collection de 1000 bandes dessinées. Donc c'est avec ça que j'ai appris à lire d'ailleurs. Hein, donc,
pareil. Bienvenue au club.
C'est plus tardivement après que j'ai découvert le journal de Spirou que j'aimais surtout dans les années 90 et 2000. Aujourd'hui, je m'y reconnais un peu moins. J'ai sans doute vieilli. Aujourd'hui, je suis encore abonné à Fluide Glacial. Donc voilà.
Et Métal Hurlant, enfin parce que votre caricature, elle m'évoque aussi, les pilotes des années 70, Métal Hurlant peut-être. Vous revendiquez ou pas ou c'est un...
Pilote des années 70, sûrement, parce que c'est quand même là que se sont produits non seulement Rezer et Cabu dont je parlais, mais aussi GB, Gottlieb et beaucoup d'autres Eni et bien sûr Goscinny. J'ai couvert ça. Métal Hurlant, j'avoue que c'est moins mon truc parce que à la base, c'était quand même énormément basé sur la fesse et la science-fiction et l'héroïque fantasy, des genres pour lesquels je n'ai pas beaucoup d'affinité.
C'est vrai, on ne trouve pas beaucoup de science-fiction dans votre dessin.
Le seul auteur qui pouvait influencer, c'était Margerin, qui était le seul comique régulier dans ce magazine. Donc,
Et pourquoi c'est étonnant d'ailleurs, puisque vous soulevez la question, la science-fiction, puisque vous êtes aussi, en plus d'être caricaturiste, vous êtes philosophe, enfin, vous avez beaucoup travaillé, forcément, vous êtes docteur en philosophie. Vous n'êtes pas intéressé pour autant à la science-fiction qui, moi, à mon sens, est une façon de faire de la philosophie. Je vous prends de court.
c'est pas ça, c'est parce que Déjà, il faut préciser, je suis docteur en philosophie antique.
C'est-à-dire que, c'est pour ça.
Ben, effectivement, j'étudie Platon, j'ai soutenu une thèse là-dessus. J'étudie aussi Albert Camus, qui pour moi est de sa façon un philosophe grec, sans doute le dernier de ces et des philosophes grecs. Donc, de ce point de vue-là, la science-fiction ne m'intéresse pas beaucoup.
Ceci dit, il y a de la SF qui s'est intéressée à la philosophie antique, mais bon, enfin, c'est très vaste en fait la SF.
Je dis pas le contraire, mais vraiment, c'est un genre qui ne m'attire pas. Donc, j'ai souvent vu des extraits de films de science-fiction ou même de certains romans qui se voulaient philosophiques, mais je pense que j'ai pas dû tomber sur les bons parce que je trouvais ça un peu, ça me rappelle un peu des réflexions d'adolescent, quoi. Donc j'ai pas dû tomber sur les bons. Hein,
je pense que effectivement on pourrait vous recommander des lectures. On vous en recommandera sur Radio Évasion. Et pour rester encore un tout petit peu sur la BD, je crois que vous faites des conférences sur RG, c'est ça? Alors là, pour le coup, le dessin est très différent de ce que vous pratiquez. Qu'est-ce qui vous intéresse chez RG?
C'est la clarté, justement, parce que c'est la ligne claire. C'est un graphisme qui est, je vais pas dire qu'il est facile d'analyser, mais qui se prête bien à l'analyse. Donc, et en plus, contrairement à ce qu'on croit, c'est une œuvre qui se découvre tout le temps. Donc, à chaque relecture, on retrouve des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées. Par exemple, dans une conférence qui est devenue un article publié récemment sur le site internet de l'ERIS, l'équipe interdisciplinaire de recherche sur l'image satirique, j'explique que Tintin au Congo, cette pomme si décriée, finalement ne caricature peut-être pas les Noirs, qu'Hergé ne connaissait pas, mais plutôt les Blancs, qu'il connaissait trop bien. Et je pense qu'Hergé a transposé sur les Noirs africains des conduites qu'il trouvait ridicules chez les Blancs. Par exemple, quand deux tribus congolaises se font la guerre, je suis convaincu qu'il a voulu tourner en dérision ces puissances européennes qui étaient toujours sur le pied de guerre. Donc.
C'est bien possible, oui. Comment est-ce que la philosophie, pour en revenir à la philosophie cette fois, vous aide, vous?
Alors je vous dis tout de suite, je ne conçois pas la philosophie dans une perspective utilitariste. Parce que beaucoup de gens, effectivement, ont tendance à penser que vous avez étudié la philosophie, ça vous aide à mieux, vous êtes un grand calme, tout vous pose dessus. Mais pas du tout, ça ne fonctionne pas comme ça. La philosophie, c'est pas des méthodes de développement personnel, c'est pas des trucs de gourou, non. C'est un questionnement permanent, au contraire. Et je pense que ça peut m'aider à ne pas tomber dans certaines escroqueries intellectuelles.
C'est ça. Oui, tout à fait. Donc, vos spécialités, vous les avez citées un peu. Platon et Camus, qu'est-ce qui les rapproche, d'après vous?
Le fait que Camus est sans doute l'un des rares à avoir vraiment compris la pensée grecque, sans doute l'un des derniers. Je pense notamment à ce passage des carnets dans lequel, en pleine Kabylie, il sent revivre ce qu'il appelait le consentement pathétique et joyeux. C'est-à-dire que toute la philosophie grecque, selon Camus, est dans ce consentement, c'est-à-dire accepter la cruauté et du monde pour mieux en apprécier les beautés.
Donc, mais ça peut nous aider, ça, voilà, typiquement, ça peut nous aider en ce moment. Et Platon, qu'est-ce que vous pourriez en dire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout?
Je dirais que lisez-le attentivement et dans une bonne traduction si possible, mais essayez d'avoir des notions de grec ancien avant, parce qu'on dit beaucoup de choses, là-dessus. Les grands succès sont souvent fondés sur des malentendus. J'entends souvent dire que Platon, c'était l'instinct de mort, c'était... Non, mais pas du tout, parce qu'au contraire, Platon a beaucoup écrit sur l'immortalité de l'âme, mais il explique que la vie de l'âme désincarnée doit rester un espoir aussi longtemps que l'on vit, et qu'aussi longtemps que l'on vit sur Terre, donc dans un corps, il faut composer avec ça, et donc ne pas se priver de ce que ça apporte. Et d'ailleurs dans le Phédon, qui raconte les derniers instants de Socrate et où cette question est centrale, on découvre que Socrate a eu un petit enfant avec sa femme, ce qui veut dire que même âgé, il continuait à faire ce qu'il faut pour ça. Donc, et d'ailleurs, je peux aussi parler du Banquet, dans lequel on a souvent accusé les poètes comiques, comme Aristophane, d'être à la source de la perte de Socrate. Bon, c'est vrai que sa pièce Les Nuées n'y est pas complètement étrangère, mais c'est tellement commode d'accuser les comiques de tous les maux, j'en sais quelque chose. Mais dans le Banquet, on voit un jeune poète tragique, victorieux, Agathon, qui à un moment donné traite Socrate d'insolent. Du moins, c'est comme ça que Léon Robin l'a traduit. Mais en fait, le terme exact, c'est hubristesse. Hubristes. Dans hubristes, il y a hubris, le pire des mots dont puisse accuser un grec. Et ça pèse une tonne. Ça veut dire que Platon montre que les poètes tragiques ne sont pas étrangers non plus à la perte de son maître.
Bon, alors là, vous nous embarquez dans un voyage où il faudrait faire une autre émission. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Alors, un petit mot pour cette fois des jeunes dessinateurs, plus jeunes que vous, qui hésiteraient à se lancer. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire?
je dirais la même chose que Ciné, n'écoutez pas les vieux. Donc, parce que, oui, c'est ce que Ciné disait ça alors qu'il avait, plus de 80 ans, et je trouve que c'est un bel exemple de modestie. Donc je dirais qu'il faut s'accrocher, qu'il faut pratiquer, qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment développer un talent, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Dans les écoles d'art, on peut effectivement vous apprendre certaines pratiques, mais c'est pas comme ça que vous apprendrez à bien dessiner. Il faut dessiner pour dessiner, et puis il faut faire preuve de persévérance si on veut se faire publier. Donc.
Et puis quand on fait de la caricature, en plus, il faut avoir une pensée politique, sans doute.
Pas forcément.
Ah
ouais, pas forcément une pensée citoyenne, je dirais plutôt. Donc, parce que je pense, Rézère, dont je parlais un instant, n'avait pas vraiment de pensée politique. Il disait souvent, on m'a toujours pris pour un gauchiste, mais je n'ai rien fait en mai 68, strictement rien. Je suis allé une fois à la Sorbonne et ça m'a choqué, ces fils de bourgeois qui faisaient la révolution. J'ai tout de suite senti que ça ne pouvait pas marcher. Donc effectivement, ça n'a pas marché. Donc peut-être pas une pensée politique, mais au moins un regard assez lucide sur la société. Donc,
Merci Bleuquin. Alors je rappelle le titre de votre dernier ouvrage qui vient de paraître chez Yil Édition. Alors Yil, ça s'écrit Y-I-L. Vous pouvez d'ailleurs avoir les détails pour vous procurer ce livre. Il y a trop de monde sur la Terre. Et puis on mettra aussi les références sur le site de Radio Évasion où vous pourrez réécouter cette émission. Merci.
De rien. Au revoir.